À 17h26, Raphaël, le président Trump qui... Trump, c'est dur à dire des fois. Le président Trump replonge tête première dans la controverse sur la Russie.
On sait évidemment que depuis hier, l'administration Trump, le président personnellement, essaie d'éteindre les feux carrément qui ont été allumés.
Recoller
les morceaux.
Les morceaux d'une déclaration.
Exactement, de plusieurs déclarations très incendiaires justement qui ont été lancées avec M. Poutine à Helsinki en Finlande. Et le président était encore en mode récupération aujourd'hui. Il a donné une entrevue au réseau CBS. On commence à voir des extraits, notamment un des extraits montre Donald Trump qui dit qu'il va rendre Vladimir Poutine imputable pour l'ingérence russe en 2016. On s'entend que c'est très, très loin du genre de discours qu'on avait il y a de cela, quoi, 48 heures. Le problème, c'est qu'en même temps, aujourd'hui, il y a eu des nouvelles révélations qui sont sorties au sujet de qu'est-ce qui s'est dit, justement, entre messieurs Trump et Poutine, alors qu'ils étaient ensemble en Finlande.
Seul à seul, rappelons-le, ça c'est très important de le dire juste avec les interprètes.
C'est ce que j'allais ajouter, juste avec les interprètes, personne d'autre. Donc, ce qui aurait été discuté, c'est que Vladimir Poutine aurait demandé à Donald Trump essentiellement sa permission pour interroger, pour que son gouvernement, pour que ses services policiers interrogent un Américain et pas n'importe lequel. L'ancien ambassadeur américain à Moscou, sous l'administration Obama. Pourquoi? Parce que le gouvernement russe semble avoir des doutes, ou tout au moins arbore publiquement des doutes par rapport à son implication potentielle au sein d'une enquête plus large qui touche à de l'évasion fiscale. C'est une affaire assez complexe, je te la résume ainsi. Et ce que Donald Trump aurait fait, et là, ça, c'est pas confirmé par la Maison-Blanche, mais ce n'est pas infirmé non plus. Ce que Donald Trump aurait fait, c'est tout au moins ouvrir la porte, dire qu'il était ouvert à la possibilité de laisser le gouvernement russe interroger formellement l'ancien ambassadeur américain en Russie, à Moscou, en fait. Et lorsque Donald Trump, en point de presse, avec M. Poutine, a parlé, je ne sais pas si tu te souviens de ça, je t'avais parlé de ça lundi, a parlé d'une offre incroyable que Vladimir Poutine lui avait faite, qui incluait la possible collaboration entre les Russes et les Américains dans l'espèce de dossier des 12 Russes inculpés par le département de la justice américain. Bon. Mais l'offre incroyable, c'est que d'un côté, tu avais ça, Vladimir Poutine qui disait « Laissez-nous enquêter avec vous sur ce cas-là. » Et de l'autre côté, il demandait aussi la permission à Donald Trump d'interroger formellement un ancien ambassadeur américain en Russie. Donc, autrement dit, l'offre incroyable comportait deux composantes qui avantageaient la Russie. C'est ça qui est incroyable.
C'est pas pour rien que t'as vu les titres des journaux russes. Remarque, mon russe n'est pas très fort. C'est gagnant.
Ben, c'est sûr, Claude. C'est sûr, voyons. Prochain sujet?
Ben, non, moi, je continuerai là-dessus encore. Non, je continuerai là-dessus encore. J'en prendrai encore parce que c'est juste fascinant.
Demain. Ouais, ta dose quotidienne, demain.
Bon, parlons des démocrates aussi. Est-ce qu'on ira jusqu'au mot bisbille?
Disons qu'on irait jusqu'au mot division.
Division chez les démocrates.
Dans le dossier d'immigration. Oui. Je te parlais de ça il y a à peu près 2 semaines. Lorsqu'on parlait, évidemment, on était dans le gros de la crise à la frontière mexicaine. Crise qui n'est évidemment pas réglée.
Les parents, les familles séparées des enfants et tout.
Exactement. Et je te disais, évidemment, politiquement, c'est dommageable, potentiellement pour le président, pour son parti.
Oui.
Je te disais aussi que de l'autre côté, il y avait un risque pour les démocrates d'aller trop loin, de pousser le bouchon à l'autre extrême. Et là, on a un exemple. C'est que tu as eu des démocrates, incluant certains candidats présidentiels potentiels du côté démocrate en 2020, qui sont sortis publiquement en faveur de l'abolition de ICE. Qu'est-ce que ICE? C'est, je te le résume là, mais l'agence de services frontaliers qui expulse les immigrants clandestins qui sont trouvés sur le territoire américain de façon illégale. Évidemment, ça divise le Parti démocrate parce que l'aile beaucoup plus à gauche est pour, mais l'aile plus modérée trouve que ça va beaucoup trop loin. Carrément dire on va abolir les services frontaliers, bon, c'est vu comme étant extrême et les républicains, eux, évidemment, sont complètement unis en opposition à une telle mesure. Donc, la majorité républicaine à la Chambre aujourd'hui a forcé un vote clairement destiné à une chose, embarrasser et semer la division au sein du camp démocrate. La résolution disait ceci: on appuie ICE et on est contre toute demande de l'abolir. Le vote final, 244 à 35. Voici ce qui est intéressant. Chez les démocrates, dans le caucus démocrate, tu en as 18 qui ont voté pour la résolution, donc qui ont voté avec les républicains, 34 qui ont voté contre. Donc, ça, c'est évidemment la trentaine d'élus sur ce dossier-là, beaucoup plus à gauche que le reste du Congrès, que le reste de leur parti. Et t'en as 133 qui ont voté présent. Pourquoi voter présent? Pour éviter d'avoir à se prononcer entre oui et non. Donc, sur cette question-là, il y a vraiment, je dirais, une prise de position qui n'est pas évidente à prendre pour les démocrates, parce que d'un côté, leur base la plus activiste est enragée par ce qui se passe à la frontière et veut aller jusqu'à l'abolition justement de cette agence-là. Mais le reste du parti se dit, bien, auprès de l'électeur américain moyen, on va peut-être être vu comme étant trop radicaux si on va jusque-là. Donc, on n'est pas tout à fait à l'aise. Donc, c'est très intéressant.
Écoute, ce qui me fascine, c'est qu'en ce moment, aux États-Unis, au pouvoir, c'est-à-dire tous les gens, les chambres et tout, le Congrès, tout le monde a l'air de marcher sur des œufs, sauf Donald Trump.
Je pense que c'est une règle cardinale, ça. Tout le monde marche sur des œufs, sauf Donald Trump. C'est une règle qui s'applique à bien des situations, incluant celle actuellement, effectivement.
Oui, parce que, tu vois, les Républicains, des fois, qui n'osent pas prendre position parce que les élections s'en viennent, puis ils veulent prendre le pouls de leurs électeurs d'abord. Démocrates, même chose, dans des endroits où est-ce qu'il y a des côtés républicains plus forts. C'est très, très délicat comme situation pour tout le monde là-bas.
Oui, et ce qui est fascinant au niveau des différences entre le système politique américain et le système politique canadien, c'est que la ligne de parti, évidemment, est beaucoup plus flexible du côté américain. Donc, quand tu es un législateur aux États-Unis, quand tu es un membre du Congrès, tu n'es pas simplement un pion. Je ne veux pas te faire de peine aux députés canadiens et québécois, mais la réalité, c'est que quand c'est le temps de voter en chambre, c'est ce qu'ils sont, des pions. Ils votent comme leur chef leur dit de voter, c'est la fin de l'histoire, 99 % du temps. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. La réalité, c'est que chaque législateur doit se prononcer individuellement sur chaque vote. Évidemment, il y a les chefs de file de parti qui vont encourager qu'on vote oui ou qu'on vote non, dépendant de l'enjeu. Mais au final, il n'y a pas la rigidité qu'on a. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus épineux, justement, bien des fois pour les membres du Congrès d'avoir à se prononcer sur des enjeux qui sont plus sensibles, qui sont plus controversés.
Quelques instants pour parler de la Californie en terminant.
Très rapidement, il y a un mouvement qui a pris naissance il y a quelques mois pour mettre sur le bulletin de vote au mois de novembre. On sait qu'on est en élection de mi-mandat aux États-Unis, mais ce n'est pas simplement des élections pour le Congrès. On a aussi une panoplie de référendums d'initiative populaire. Tu sais, c'est quoi? Évidemment, on résume pour les gens qui ne connaissent pas. Vous avez un nombre critique de signatures que vous allez chercher, par exemple, au sein de l'électorat de la Californie pour forcer la tenue d'un vote, un référendum sur un enjeu de politique publique X. C'est comme ça, notamment, que la Californie a légalisé, il y a de cela maintenant à peu près 2 ans, la marijuana. C'était via référendum d'initiative populaire. Et donc, il y a un nouveau mouvement qui a été lancé pour forcer la tenue d'un vote sur la possible, pas sécession, mais la possible division interne de la Californie en 3 États. On sait que la Californie, évidemment, c'est l'État le plus populeux des États-Unis. Mm-hmm. Il y a une plus grande population, en fait, que le Canada entier, il faut le rappeler. Et c'est un État qui est très, très hétéroclite aussi. Le Nord, qui est différent du Sud, qui est différent
du
centre et de l'intérieur, qui donne davantage sur le Nevada. Et donc, il y a différentes parties de l'État qui trouvent qu'il n'y a pas nécessairement toujours une très bonne cohabitation. Et donc, il y a eu un mouvement pour mettre ça sur le bulletin de vote, et ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Cour suprême de la Californie a ordonné qu'on retire cette initiative-là du bulletin de vote des électeurs californiens parce qu'elle a jugé, la Cour a jugé qu'elle présentait trop de problèmes potentiels.
Ben, t'imagines le panier de crème, toi?
Ben, ne serait-ce qu'au niveau constitutionnel, c'est que c'est loin d'être clair que c'est même possible. Mais imagine-tu?
Entre eux, mais constitutionnel, puis comment s'appelleraient ces États-là?
Ça serait un autre sujet de débat.
La Lifort et l'Annie.
Peut-être.
On ne sait jamais. Oh, écoute. Fascinant. Fascinant. Merci beaucoup, Raphaël Jacob. On se laisse là-dessus.
À demain.
À demain.